que c'est que cet étrange bosquet, Alain Canet? Des arbres qui ont visiblement été plantés, des mûriers qui ont des formes un peu étranges au milieu d'un champ, à côté d'une ferme abandonnée.
Ça s'appelle les vestiges du passé, et c'est surtout les vestiges de l'avenir. Ce sont des trognes de mûriers avec lesquels on faisait les verres à soie.
Et sous les trognes ?
Des trognes, des arbres têtards, des arbres qu'on a taillés, étêtés toute leur vie. Et donc aujourd'hui, on les remet en production parce qu'ils sont un petit peu abandonnés. On a oublié de les tailler parce que les papilles sont parties. Donc on les retaille parce que ce sont des arbres qui sont creux avec de grosses têtes riches, pleine de bestioles, mais avec des têtes fragiles. Donc on les taille, on fait du bois raméal fragmenté avec, on fait du bois. Ces trognes ont vu beaucoup de monde, parce que moi j'y ai toujours vu des moutons. Et aujourd'hui on appelle ça, il a fallu trouver un terme générique, on appelle ça de l'agroforesterie.
Alain Canet, en France, c'est presque Monsieur Arbre. Il est un des fondateurs de l'association Arbres et Paysages. Il est aujourd'hui président de l'association d'agroforesterie. C'est dire s'il s'intéresse à ces végétaux.
Les mûriers pour le verre à soie sont assez fréquents dans la région, mais là il y en a pratiquement un hectare, il y en a 150 ou 160, c'est assez rare. Et de voir, on peut parler de patrimoine, mais de voir ces arbres qui allaient peut-être un jour disparaître sous le coup d'un bulbe, parce que si on s'en approche, ils sont creux, ils sont... Ben, ils ont des têtes un peu bizarres, moi je les trouve magnifiques, mais on voit du bois mort, c'est le propre de ces arbres têtards, ils sont à la fois morts et vivants, avec des racines qui poussent dans leur tête. On pourrait, en les regardant de loin, on pourrait les trouver très moches, appeler un type avec une pelle mécanique et puis les enterrer au coin du champ. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve le propriétaire, le gestionnaire, qu'on discute, et puis on a discuté. C'est vrai que ça lui a fait un peu drôle, l'agriculteur, parce qu'on lui a dit... Vos trognes nous intéressent. Alors il a fallu lui expliquer ce que c'était que les trognes. Et puis il a très vite compris. Il a d'autant plus vite compris qu'il s'est toujours chauffé avec ces arbres-là. Et ça rejoint bien l'idée qu'on peut se faire des arbres têtards. Ça sert à plein de choses et avant tout à produire du bois sans qu'on les coupe. Donc un peu vieux, il ne pouvait plus monter dedans pour les couper. Donc on l'a fait. On lui a laissé le bois de chauffage. Et puis on a pris la branche, parce que brûler la branche, c'est dommage. On en a fait du bois raméal fragmenté. Puis on a planté d'autres arbres qui deviendront des trognes plus tard.
Alain Canet, pendant des décennies, on a arraché les arbres partout. Aujourd'hui, vous avez presque l'air de penser qu'il ne faudrait pas en faire trop dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus déifier, glorifier les planteurs d'arbres.
Il faut rester prudent, effectivement. C'est sûr qu'on a totalement cloisonné, on a tout cloisonné. On a pensé que les arbres n'étaient absolument pas utiles à l'agriculture. Ils le sont parfaitement. De là à penser que ça sera la solution unique et miraculeuse, je vois encore beaucoup de gens qui me parlent d'arbres miracles. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que il n'y a jamais de miracle, et heureusement d'ailleurs, ou d'arbres fabuleux qui auraient une vertu. C'est vrai que tous les arbres ont énormément de vertus. Simplement, il ne faut pas oublier que, donc, en agroforesterie, on remet quelques arbres au milieu des champs. Il y a des systèmes très simples, hein, qui sont ceux d'élevage, qui sont des évidences, même s'il n'y a pas des arbres au-dessus de tous les animaux d'élevage de plein air et même en bio. Et ça, c'est un peu dommage. Et en culture, ça marche aussi, pas n'importe comment ni à n'importe quel prix. Mais le pilier de cette affaire du retour des arbres, c'est l'activité biologique, c'est la vie des sols, c'est l'humus. Les arbres y participent énormément, mais ça veut dire que si on met les arbres, il faut aussi ne plus toucher les sols, ne plus les travailler, les respecter, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, en tout cas comprendre le fonctionnement, faire une agriculture de l'agronomie. L'agronomie, ben, ça veut dire qu'on descend du tracteur, on regarde ce qui se passe, on comprend les bactéries, les microbes, les micro-organismes et surtout les champignons, hein, que sont les mycorhizes et qui sont là pour aider les plantes à vivre en symbiose, capter des éléments minéraux, capter de l'eau. Et c'est quand on a, me semble-t-il, pris tous ces paramètres en compte qu'on peut remettre des arbres dans les champs.
Mais avant de remettre tous ces arbres dans les champs et d'arriver à prendre en compte tous ces paramètres, qui sont quand même nombreux, vous en parlez comme de quelque chose de simple, mais si on reprend votre parcours à vous, dans mon souvenir, vous étiez quelqu'un qui vous intéressait au paysage.
Quand on s'appelle Arbres et Paysages, c'est un choix délibéré, c'est sûr. C'est très simple, on est né par la haie champêtre. puisqu'on en a arraché.
On, c'est votre association.
Oui, c'est notre association, mais c'est le mouvement en France qui a presque 30 ans maintenant, un mouvement de fond qui dit mais que fait-on ? Nous arrachons, on ne voit pas tous ces bienfaits de la haie, on ne voit pas tous ces bienfaits des arbres, il faut qu'on replante. Donc on a replanté des haies. Pas assez, on a eu du mal et on a encore du mal à enrayer la disparition des arbres champêtres pour des raisons idéologiques. Alors, je ne sais pas si on n'a pas assez travaillé, si on a mal travaillé, mais l'arbre est encore assez mal compris. Il est compris par un certain nombre d'individus, d'agriculteurs, par la population, mais il y a des cas de figure. Enfin, il suffit de traverser la France, je serais tenté de dire, pour se rendre compte qu'on est encore loin du compte et que sans ce retour d'arbres programmés, alors nous on parle de réarbrement, alors le terme est un peu violent. En tout cas, on parle d'arbres diffus, dilués dans le paysage. Et c'était ça notre entrée, ça l'est toujours. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans les piémonts ou dans certaines zones de Causse, on lutte contre l'enfrichement. L'enfrichement, ça n'existe pas, c'est qu'un stade, intermédiaire. Donc on lutte bien contre les arbres. Dans le piémont pyrénéen, les prairies n'ayant presque plus d'élevage se referment. Et nous, on lutte contre la disparition de l'arbre. Donc c'est le problème de sa répartition et de sa dilution dans le paysage, et de sa juste place. C'est-à-dire, quelque part, je serais tenté de dire, c'est comme l'eau, il y en a toujours trop ou pas assez. Ben non, il faut trouver un juste milieu. Et donc notre travail sur la haie champêtre nous montre aujourd'hui qu'on ne va pas assez loin avec les haies. Et on a des exemples criants qui nous sautaient aux yeux, enfin, qui nous ont toujours sauté aux yeux, mais avec lesquels on a eu du mal à franchir les caps. C'est les prévergers normands. C'est des systèmes très productifs, mais au bon sens du terme, puisqu'on y produit tout ce dont on parle autour de l'eau, du sol, du carbone, de la biodiversité, du paysage, de la productivité agricole, du confort animal, et puis du cadre de vie, parce qu'on y est tellement bien dans ces prévergers qu'on n'a presque plus besoin de substances médicamenteuses.
Il y en a beaucoup qui ont disparu ?
Oui, il y en a énormément. Il y en a énormément qui ont disparu par ignorance. Et puis tout le système fait que la monoculture, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire je fais du blé, ou je fais de la betterave, ou je fais du maïs, ou je fais du verger intensif. Hein. C'est exactement la même chose. Ben non, ça n'a pas lieu d'être. C'est contre nature. C'est précisément contre nature. Tout ce qui se passe autour de nous, on est obligé de l'observer de près. C'est des complémentarités, c'est des assemblages, c'est des mélanges, c'est de l'entraide. Les plantes réagissent peut-être un petit peu, sont peut-être pas finalement comme la nature humaine qui est toujours en train de se chercher des poux, en train de chercher qui est le fautif. Hein. Je serais tenté de dire que dans la nature humaine, quand il y a un problème, on cherche le coupable. Dans les plantes, quand il y a un problème, on est plutôt en train de chercher une solution en symbiose. Et aujourd'hui, on en est là. On en est là de se dire que ben, on peut replanter des haies autour de nos parcelles, mais si on n'a pas une action de préservation du sol, et quelque part, il faut être très humble, on copie le modèle forestier. Le modèle forestier nous enseigne quelque chose de très simple.
Le modèle... Oui, mais tout de même, attendez, Alain Canet, parce qu'avant d'arriver au modèle forestier, vous dites c'est contre nature, la nature humaine a tendance à chercher à se compliquer l'existence, mais si on vous écoute bien, vous êtes en train de chercher la juste place des arbres, ni trop, ni trop peu, diffus, pas... trop d'arbres d'un seul coup, c'est-à-dire ne pas refermer les paysages, comme on dit, mais ne pas non plus les faire disparaître tous. Donc, on n'est pas exactement dans la nature, on est dans la recherche humaine d'une certaine forme qu'on juge harmonieuse de la nature.
Votre question amènera plusieurs réponses, probablement. La première, c'est de dire qu'on a nécessairement besoin de ces plantes que sont les arbres, qui nous amène énormément de services, et on ne peut pas aujourd'hui agrandir les forêts. Si on laisse les espaces agricoles ouverts, on a énormément de problèmes. Donc je ne sais pas où on se situe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus cultiver sans les arbres. Ça va devenir de plus en plus difficile. Donc on s'est rendu compte qu'ils étaient nécessaires. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'ils sont nécessaires en bord de route, en bord de champ, en bord de chemin, en bord de ruisseau, et ça c'est déjà énorme. Et ça,
en bord de rue ?
En bord de rue, hein, c'est vrai que moi je suis un peu trop dans mes campagnes, mais je vous remercie de le rappeler. Et ils sont nécessaires, donc on ne se pose pas qu'une question esthétique de ces paysages-là, on se pose bien la question de tout ce que va amener l'arbre. Alors c'est vrai que...
Alors de quelle nécessité est-ce que vous parlez, justement ?
Un exemple très simple, c'est le... Je pense que le pilier de l'agroforesterie, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui communément la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire d'être capable d'observer dans des zones, dans l'interface, dans des zones entre deux champs, entre deux rues éventuellement. Je vais parler du frêne, tiens, par exemple. Un arbre qui pousse comme du chien d'an, qui est un arbre plutôt méconnu, dont la filière bois n'existe quasiment pas, alors que c'est un bois d'œuvre magnifique. Mais cet arbre qu'on va laisser pousser au bord de notre fossé, il va protéger nos cultures ou nos animaux, il va tenir la berge, il va fixer du carbone, disons-le, il va héberger une faune associée importante. Et puis plus tard, on va, si on le taille en têtard, on va récolter des branches. Si on le laisse pousser avec un joli fût, on va récolter du bois et on va l'utiliser pour tout un tas d'usages. Et c'est une ressource qui est presque invisible. On n'est pas tout à fait capable d'accepter que cet arbre-là va pouvoir pousser tout seul, qu'on n'a pas besoin de l'engraisser. C'est en ça que je parle du modèle de la forêt. C'est-à-dire que sans labour, sans engrais, sans eau, à part celle qui est au pied de ce petit fossé, notre arbre va pousser et rendre.
Et même sans travail pour le semer ou le planter.
Absolument, et même sans travail. Et voilà, on n'arrive pas à planter tous les arbres dont on a besoin. Ça coûte cher, c'est difficile, c'est compliqué. Nous, planteurs d'arbres, le premier message qu'on a à faire passer, c'est de dire, mais déjà, laissons pousser. Et ça, ben, quand on a commencé, on ne savait pas faire ça, on n'acceptait pas ça, parce qu'un arbre, ça se plante, ça se paille avec du paillage et tout. Et il faut que dans nos propres têtes, on fasse ce travail de fond. Si on est raisonnable, si on se dit, aujourd'hui on parle de trame verte et bleue, c'est très théorique, mais ces arbres champêtres, c'est des services, et vous le savez bien, absolument considérables. Mais si on veut qu'ils reviennent, il faut que ça marche facilement, que ça soit simple et pas cher. Et cette végétation spontanée ou régénération naturelle assistée, c'est un atout absolument, absolument incontournable.
Pourquoi c'est si difficile de laisser pousser des arbres à l'incané ?
Et c'est difficile parce qu'on est totalement formaté. On est formaté et je crois encore voir des cours où on apprend que pour faire pousser un arbre, il faut faire un trou d'un mètre carré, d'un mètre de profondeur, qu'il faut mettre un peu d'engrais de fond, du fumier, l'arroser tous les 15 jours, enfin tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être. Un arbre, ça doit pousser tout seul, ça doit améliorer le sol et ça a toujours été comme ça, la plante est pour nous un modèle fabuleux, ça doit améliorer le sol dans lequel il va pousser.
Et ça a l'air d'une évidence et pourtant, apparemment, vous avez du mal à convaincre autour de vous.
Clairement, on manque de moyens. Hein, on a un métier qui est nouveau, sur lequel on a posé des bases, mais un métier nouveau, si je prends des modèles sur la faune sauvage, sur les poissons, sur d'autres milieux, ou sur des espèces. Sur des espèces, on a beaucoup travaillé, on n'a pas forcément travaillé sur l'habitat. Si on avait un garde-haies champêtre dans tous les départements, c'est le cas dans un certain nombre, mais dans plus de la moitié des départements de France, il n'y a personne qui travaille sur l'arbre champêtre. Comment voulez-vous qu'on puisse expliquer que cet arbre qui va pousser tout seul en bord de route, il va ralentir le flux de l'eau, il va produire des paysages de qualité, il va produire enfin, tout un tas de choses. Il n'y a personne qui explique ça, parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est qu'on passe par un stade qui est celui de la ronce. Et ça, c'est inacceptable. Il n'y a qu'à regarder les pubs encore dans les revues spécialisées où on nous montre comment il faut détruire. La ronce, c'est juste le berceau du chêne. Le lierre, c'est juste une plante totalement indispensable qui fleurit à une période où il n'y a rien, où les abeilles se jettent dessus et qui fructifie à une autre période qui est en fin d'hiver, quand il n'y a rien non plus, où l'ensemble des oiseaux et des mammifères vont se réfugier et se nourrir.
Donc en fait, ce n'est pas qu'on ne laisse pas pousser le frêne, c'est qu'on ne le laisse pas advenir.
Oui, c'est ça. Oui, absolument. Parce qu'il faut qu'on passe, ce cap. Et puis, je crois qu'on me l'a soufflé, mais cette idée de ressources invisibles est intéressante. D'imaginer que ce jeune frêne qui sort de la ronce, là, qui fait 60 cm de haut, c'est l'arbre centenaire de demain sur lequel on ira se recueillir, on écrira des poèmes, faire des photos. Pour arriver là, il faut qu'on passe le cap de la jeunesse, de l'adolescence et tous ces caps-là. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que finalement, en changeant nos pratiques, on peut faire un bon travail à très grande échelle. Et après, on ira planter nos parcelles agroforestières avec les arbres dits précieux, les arbres fruitiers tels que les cormiers, les alisiers, les merisiers, les noyers, parce qu'au milieu des champs, ils ne pousseront pas. Mais en bordure, le milieu, la nature et puis les oiseaux, le transport des graines et des baies fait qu'on a cette chance-là.
Et je me demande aussi dans quelle mesure on n'accorde pas davantage de valeur aux arbres qu'on a plantés, qu'à ceux qui poussent tout seuls à l'incané.
Oui, c'est sûr. Oui. Oui, il y a pas de doute là-dessus. On a probablement tendance à. On a voulu, on a voulu, on n'a pas voulu, on a tout construit, on a tout organisé autour de nous. Et du coup, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure. Où est la nature dans tout ça? Ben, la nature, c'est d'accepter tout ça en partie, puisque de toute façon, on sait très bien qu'on crée ces espaces, qu'on les gère, mais on peut les gérer intelligemment, me semble-t-il. On peut, dans les parcelles agroforestières telles qu'on les développe aujourd'hui, en lien avec les arbres des cours d'eau, en lien avec les haies, cette végétation qui va pousser toute seule, et puis ces quelques arbres qu'on va planter, des techniques de culture du sol très douce, voire aucune, juste des semis, des couverts permanents. Je crois qu'on a des parcelles agricoles qui sont des milieux naturels. Ça peut devenir des milieux naturels assez vite, dans lesquels on va reconstituer les humus, on va reconstituer de la vie, ça va grouiller de bactéries, de microbes et de champignons. Ça, c'est des espaces naturels. Et finalement, l'environnement, ces questions d'environnement, elles vont se traiter en agriculture, parce que c'est là, c'est à grande échelle. Et donc je reviens, on rejoint bien la forêt qui, en plein été, la forêt, ça pousse toujours, pourtant il ne pleut pas. Donc elle est bien capable de mobiliser de l'eau qui n'est pas très visible.
Jacques Delozzo, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire une parcelle très grande, avec un joli relief d'ailleurs, vallonné, dans laquelle visiblement vous avez un petit peu travaillé le sol, mais en même temps vous avez planté des rangées d'arbres qui sont encore très jeunes, c'est des arbrisseaux pour l'instant.
Oui.
Mais on imagine qu'ils vont pousser. Et donc finalement, vous êtes en train d'aller vers de la forêt, vers des champs. Vers quoi ?
Alors, on va ni dans vers de la forêt, on garde surtout des champs parce qu'on reste un système agriculture. Ça s'appelle de l'agroforesterie, donc on met en place des arbres champêtres dont la densité dépasse rarement 50 arbres à l'hectare. Sur mon exploitation, c'est le cas toujours. Cette agroforesterie, en fait, on essaie d'imiter, comme vous disiez, entre la forêt et la prairie. On va essayer d'imiter les deux techniques. En plein champ, pour faire de la céréale. L'agroforesterie, en ce moment, elle est jeune, certes, mais elle sert non seulement de corridor, mais d'habitat aux auxiliaires de culture. D'autre part...
L'agroforesterie, c'est-à-dire ces arbres que vous avez plantés.
L'agroforesterie, c'est la mise en place d'arbres champêtres en plein champ. Voilà. Ça ressemble à une forêt, mais ce n'est pas une forêt. On cultive entre.
Ça ressemble surtout à une hérésie en milieu agricole.
Parce que c'est encore assez rare de rencontrer des agroforestiers. Ça le devient de moins en moins parce qu'on sent quand même une tendance à l'interrogation et les gens se posent des questions.
Et puis il y a eu des expériences réussies, on le sait.
Notamment, et puis l'agroforesterie ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été abandonnée. Enfin, elle a été. En fait, les zones agricoles ont été déforestées depuis l'origine pour nous nourrir, on va dire. Mais on a oublié que les arbres étaient indispensables. Et surtout qu'ils ont créé la fertilité de nos sols, ça on l'a carrément oublié.
Oui, mais pour vous, qui êtes d'un milieu agricole, et qui donc aviez oublié tout ça, comme tout le monde, comment est-ce que ça vous est revenu tout à coup à l'esprit ?
Alors moi, j'ai quand même la chance d'avoir, on va dire, d'aimer l'arbre, il n'y a pas d'explication. La différence, c'est que je me suis posé la question, pourquoi les arbres ? J'ai regardé, j'ai bouquiné, et puis j'ai rencontré Arbres et Paysages 32. Et là, ça m'a ouvert pas mal de portes. Et à partir du moment où on a compris ce qu'on recherche, on approfondit et on applique. C'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué, j'ai mis de l'agroforesterie qui a débuté il y a 4 ans à peine. Et pour la petite histoire, j'avais commencé à de la plantation forestière, que je regrette bien aujourd'hui. J'aurais préféré remplir l'exploitation en agroforesterie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que sur une grande surface et sur 10 hectares de mon exploitation, je l'ai consacré à de la plantation forestière. Donc ce sont des bois, quoi. Ce sont des plantations forestières.
Des essences forestières, plutôt que des essences champêtres.
Et puis des mono-essences surtout. En fait, c'est pas dans l'air du temps. En fait, c'est par ignorance, encore une fois.
En fait, vous avez démarré tout seul.
J'ai démarré tout seul, j'ai demandé l'aide de quelques techniciens, mais de techniciens de la forêt. C'est parce que je ne connaissais pas encore l'agroforesterie. Et c'est avec Arbres et Paysages 32, toujours pareil, et des articles sur des revues agricoles qui ont permis de débuter à cette technique, on va dire.
Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression à la fois que vous êtes en train d'expérimenter, mais en même temps que vous êtes déjà complètement convaincu.
Ah ben je le suis. C'est le début de l'expérience, mais il faut laisser parler sa conscience. Il suffit d'ouvrir quelques bouquins, quelques livres. Si on s'intéresse pour peu à l'arbre, à quoi il a servi l'arbre? Eh bien, à tout. On fait des armes, on fait des bateaux, on fait des maisons, on se chauffe, on amende le sol, on nourrit le bétail, il y a des arbres fourragés. On fait tout avec un arbre. Donc, quelque part, il a quand même son utilité. Même si on n'a pas étudié, même si on n'a pas appris l'histoire de l'arbre. Il est évident que tout le monde sait, on retrouve du bois dans toutes sortes de matériaux.
Oui, mais au plus fort de sa présence, l'arbre, Jacques Delozzo, il était autour des champs, il n'était pas dans les champs.
Ben, au début, si, il était même dans les champs. Dans les Vikings, ils ont déboisé pour faire quelques récoltes. Mais les Vikings, ils déboisaient avec les haches et les scies. Depuis une cinquantaine d'années, ce sont de gros outils beaucoup plus costauds. Il n'y a plus de limite. Quoi. Si on n'arrête pas, si on n'a pas conscience, au début, on n'a pas besoin d'avoir conscience. De toute façon, on ne va pas tout détruire avec une hache ou une scie, un passe-partout pour couper des arbres. Par contre, avec des pelles mécaniques et des bulldozers, si on n'arrête pas, on défriche tout.
Chez Jacques Delozzo, la directive nitrate, la stratégie nationale sur la biodiversité, la directive sol. Ah, la directive sol, elle est bloquée pour l'instant. C'est pas étonnant d'ailleurs, parce que celle-là, elle est douloureuse.
Alain Canet, président de l'Association d'agroforesterie française.
J'en passe et des meilleurs. Alors, la directive cadre sur l'eau, la question des abeilles, quelque part, je crois qu'il s'en fout un peu. Mais par contre, ce qu'il a peut-être pigé, c'est que lui, son outil de production, c'était le sol. Et que la fertilité, il pouvait la créer de par son sol. Parce que c'est vrai que, je crois même qu'il a dit, quand on va dans les bois, ben on regarde cette matière organique, on se dit, mais on n'est pas allé chercher du phosphate, ou du terreau, ou du compost, ou je ne sais quoi. Non, les plantes ont créé cette fertilité sur la parcelle. Et puis, ben, vous le voyez bien, quand on est là au milieu de son champ de luzerne mélangé avec du trèfle, ben, le sol n'est pas nu, il est vivant, c'est bourré d'insectes, c'est bourré de papillons, il suffit de marcher, c'est bourré d'abeilles. Donc, quelque part, ce que je dis est un peu méchant, il s'en fout sans s'en foutre, mais son entrée, c'est pas ça. Son entrée, c'est dire mon sol, c'est du capital. J'ai bien compris que le sol, ça ne doit pas voir le jour. Le sol, ça doit être travaillé, mais vraiment le moins possible. Le sol doit être une éponge, donc être en capacité à faire ce qui s'appelle de la réserve utile en eau, c'est-à-dire que l'eau qui tombe, ben, il faut que je la garde, ou si je la laisse repartir, c'est par le sous-sol, mais pas par l'érosion. Donc, en ayant un agriculteur, un agroforestier agriculteur qui fait ces techniques culturales simplifiées, ces couverts, ben, de par la présence des arbres, de par la présence de ces cultures permanentes, il copie assez bien la forêt. Alors c'est vrai que c'est un milieu qui est un petit peu artificiel, mais où la nature a vraiment sa place, puisque ce sont les microbes qui contrôlent tout ça. Et ben, du coup, il se met en hyper bonne position sur la future politique agricole commune qui sera très en dessous de ça. Pour moi, c'est important de souligner ce travail de ces agriculteurs, parce que ils sont dans des systèmes. Ben, on n'utilise presque plus d'énergie fossile, très peu en tout cas, pour semer et récolter. Pour l'instant, on en est encore là. Peut-être qu'on fera mieux plus tard, mais il faut franchir des étapes. Hein. Je crois qu'il faut être prudent dans nos systèmes. Avec des matériels de semis qui sont sophistiqués, qui coûtent un peu cher, mais au final qui coûtent bien moins cher que tout le panel des outils qu'il faut d'habitude pour casser, pour détruire un sol. Hein. À chaque fois qu'on touche un sol, il y a énormément de carbone qui s'évapore dans l'atmosphère. Et je crois que la solution... Souvent, on nous dit, mais est-ce que ce que vous faites, c'est pas un phénomène de mode et vous parlerez d'autre chose? Bon, comme on a un peu de recul et un peu de modestie aussi, mais malgré tout, le sol qui doit travailler, le sol qui doit vivre et le sol qui doit être bourré, alors maintenant, il faut parler comme ça, c'est de cette carbone, mais de ces humus et ces matières organiques. Si on veut faire l'agriculture, on n'a pas le choix. Si on veut nourrir pas mal de monde, on n'a pas le choix. Moi, je sors pas de mon métier, donc je dis pas qu'il faudra qu'on nourrisse X milliards. Mais ce que je sais, c'est que si on veut qu'il y ait des grains qui soient bien remplis, si on veut qu'il y ait des plantes qui soient saines, les plantes saines, on critique beaucoup, à juste titre, toute la pharmacopée qu'on utilise pour traiter les plantes, hein, tous ces produits phytosanitaires, mais on ne fait que transférer nos propres problèmes. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va être malade, donc on se prévient. Il n'y a qu'à regarder parfois la pharmacie, l'étendue des pharmacies dans les maisons. Et bien pour les plantes, on pense la même chose. On pense que la plante va être malade. Mais évidemment qu'elle est malade, puisque le sol est mort. Mais quand chez Delozzo, le sol n'est pas mort, la plante n'est pas malade. Donc si la plante n'est pas malade, on n'a pas besoin ni de l'engraisser, ni de la traiter, ni de l'arroser. Donc là, on supprime la béquille qui est, ou l'injection, hein, parce qu'on est, on est parfois sous perfusion. On supprime ces perfusions-là, et bien du coup, les insectes, à commencer par les abeilles, parce que c'est les plus emblématiques, elles le sentent vite, elles reviennent. Elles ont des fleurs.
Est-ce qu'il faut, ou peut-être qu'il ne faut pas, et les arbres et le sol couvert? Est-ce que ça ne suffirait pas simplement de laisser le sol couvert et de mettre peu de peu labouré? Ou bien est-ce qu'il ne suffirait pas d'avoir des haies qui serviraient de brise-vent, qui serviraient à empêcher le dessèchement du sol, etc.?
Ben non, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on... C'est pour ça que ce milieu est un milieu naturel extrêmement efficace, même si, j'en conviens, on l'a organisé. C'est vrai que là, vous voyez des plantations qui sont jeunes, qui ont 3-4 ans, c'est très linéaire, mais dès que les arbres vieillissent un peu, ils prennent de jolies formes. Et je rappelle pour mémoire que les prévergers normands sont plutôt alignés, ça marche bien. Et aujourd'hui, on mécanise, on récolte. Mais ben non, les deux sont nécessaires. Si je plante des arbres et que je laboure toujours plus profondément, je passe des herses, mon sol, à chaque fois que je touche mon sol, je casse ma vie, je casse ma maison, comme dit Konrad Schreiber. J'ai beau avoir des arbres, si j'ai pas un habitat, si on m'ouvre l'estomac 3 fois par an, j'ai du mal à m'en remettre. Donc non, les arbres avec des techniques qui matraquent les sols, même s'il faut être prudent parce que c'est pas simple, ça marche pas. Et puis des sols qui sont couverts, qui vivent bien, qui sont pas labourés, ils ont besoin de quelque chose d'essentiel dans le cycle, justement, et sur Terre, ça marche comme ça, c'est la lignine qui crée des humus stables, et là, les arbres sont extrêmement importants et nécessaires. Bon, les arbres vont protéger au-delà des apports d'humus, et puis, dans les questions de changement climatique, qu'on ne maîtrise pas, mais si changement climatique il y a, on aura des phénomènes, paraît-il, violents. Et là, les arbres vont être de très bons amortisseurs. Des très bons amortisseurs du très chaud, du très froid, du très venteux, du très pluvieux. Et c'est important de dire qu'on va commencer à avoir un champ qui marche bien, qui est auto-fertile, qui produit bien, dans lequel on ne prélève que le grain, on ramène beaucoup de paille et de matière fraîche au sol, mais on n'est pas à l'abri d'un gros problème, d'un gros coup. Et là, l'arbre va amortir tout ça. Et puis, une question qui est certainement fondamentale, on peut parler d'optimisation dans cette agriculture, mais la compétition est grande aujourd'hui. Il y a des zones dans lesquelles on ne veut plus planter de bois parce qu'on a besoin des terres agricoles. Et en plus, on n'arrête pas de nous dire qu'on a besoin des terres agricoles, qu'on consomme tous les 7 ans maintenant un département. Donc il faut qu'on soit plus malin. Mais ça tombe bien d'être plus malin, d'être sous la contrainte. Ça nous oblige à réfléchir mieux. Et là, l'agroforesterie prend tout son sens, puisque quand on met des arbres dans les cultures à raison de 50 arbres hectare à peu près en moyenne, on ne va pas faire baisser les rendements des cultures. Mais on va surtout stocker énormément de carbone, produire du bois, produire des fruits, produire du bois raméal fragmenté, produire énormément de services. Et cette contrainte-là, on s'en passerait de faire de l'agroforesterie quelque part. On s'en passerait. On pourrait faire tout autre chose. On pourrait se passer de planter des haies, on pourrait se passer de faire de l'agroforesterie. Sauf que les arbres vont immobiliser beaucoup plus d'eau que ce qu'ils vont consommer, donc ils vont en redonner un petit peu aux plantes, enfin, ils vont avoir tous ces services. Au final, je vais sortir, au bout d'un certain nombre d'années, avec un milieu qui est riche, vivant, naturel, et je vais avoir produit plus. Et ça tombe bien, le sol a besoin de ça. Je dois affirmer et dire que le sol déteste la décroissance. Je pense qu'il va falloir être prudent dans nos actes à l'avenir, de consommation au sens large, mais pas dans le sol. Ne croyons pas que le sol a besoin de se reposer, ne croyons pas que la jachère est indispensable. Non, le sol, s'il se repose, il va très mal.
Ah, c'est meilleur ici.
Il n'y a qu'à voir, hein. Il n'y a rien. terrain travaillé en conventionnel depuis très très longtemps.
Jack Delozzo, agriculteur et agroforestier.
Et depuis assez longtemps, ici, ça n'a jamais été travaillé.
Oui.
Voilà. L'état de la terre, avec les mains, avec les doigts.
La terre, elle est meilleure là où ça n'a pas été travaillé.
Il n'y a qu'à regarder. C'est micro-perforé dans tous les sens. Il y a des turricules. Là, il y a des déjections animales qui vont nourrir les racines. La terre est meuble. Je l'écrase, elle va se mettre en farine. Et là, on peut parler du complexe argilo-humique et des agrégats. Parce que là, il y a de l'humus. Complexe argilo-humique avec 1,2% d'humus, il est plus complexe que... il est plus argilo que humique, quoi, le complexe. Et si on arrive à recréer ça dans nos sols, on a gagné. Si les grosses firmes, les gros pétroliers nous court-circuitent pas avant, eh bien, c'est gagné, quoi. Et il a fallu aucune intervention de l'être humain pour faire cette verticale dans cette haie.
Mais en revanche, vous avez planté cette haie, là ?
Non, elle est spontanée, cette haie. J'ai rien planté, là. Ça, c'est tout, c'est venu tout seul. Donc, il ne faut pas faire de la haie ou de la forêt dans les champs, mais il faut limiter. On va mettre en place, donc, d'où la plantation agroforestière, parce qu'elle va mettre pas mal d'humus à disposition un jour. Pour que les arbres soient gros, d'abord, il faut qu'ils soient petits. Pour les planter, donc, il faut un début. Donc, on va dire que ça va se jouer définitivement en une ou deux générations. Mais s'il n'y en a pas une qui commence, on va patiner, quoi.
Ça ressemble presque à une vigne, en fait, ce que vous faites,
alors, Jacques
Delozzo.
Ce qu'on voit là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le besoin d'avoir de l'arbre autour de l'exploitation. En face, nous, il y a de la plantation forestière. La densité est plus importante. Donc, c'est ce qui a été mis en place en premier. Que je regrette aujourd'hui, j'aurais préféré mettre de l'agroforesterie. Donc j'aurais continué à cultiver mes terres. Mais à l'époque, pour pouvoir mettre en place un système pareil, parce que je ne cache pas qu'il y avait des subventions, ça paye les arbres. Le travail, c'est nous, et la subvention paye les arbres. Donc je suis passé par là, et j'ai planté 9 hectares, étant donné que j'avais 1 hectare sur place. La surface minimum était de 10 hectares. Donc j'ai essayé de trouver les terres les plus pentues, les coteaux, et j'ai mis en place les essences qu'on m'a conseillées.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je ne suis pas très ravi, mais il y a du résineux, du laricio. C'est capteur de processionnaire, hein. C'est pas capteur d'azote. Il y a l'érable sycomore, qui a du mal à supporter la chaleur. Mais ils y sont, tous les pieds y sont. Ensuite, il y a du noyer hybride, noir et blanc. Là, c'est la catastrophe. Il y a 2,5 hectares. C'est pas compliqué, j'ai l'impression de perdre du temps.
Pourquoi ?
Parce que on les a sous les yeux. Ils sont plantés depuis 2003. Et puis on a l'impression qu'ils ne poussent pas, qu'ils végètent, et j'ai essayé de les façonner, ils partent dans tous les sens. J'ai posé des questions, je fais comme on m'a dit, et non, ça ne part pas. Donc sur cette parcelle-là, ce petit fiasco forestier, il serait intéressant que je puisse la transformer en agroforesterie. Mais là, ça reste un autre problème, il faut que je demande aux autorités si j'ai le droit.
Parce que là, quand vous avez planté, ça ne s'appelait pas de l'agroforesterie,
non,
ça s'appelait...
Plantation, une forêt, c'est une plantation forestière.
Plantation forestière.
Voilà. Le but, c'est de faire du bois d'œuvre pour plus tard, d'œuvre ou pas. Hein. Et c'est tout, quoi. C'est pour faire de la production de bois. Alors, la population est assez importante pour la simple raison, c'est qu'il y a des éclaircies tous les 10-15 ans après, une éclaircie, quoi. Ce qui va ensuite, les restants vont pouvoir grossir. Et voilà. Et au fond, là-bas, on a un hectare de peupliers, c'est ceux qui ont poussé le mieux. Voilà. Ils sont en bas fond.
C'est des arbres à papier ?
Oui, pour faire des cagettes ou du papier, c'est pour l'usine.
Pour l'industrie.
Pour l'industrie, voilà. Ensuite, dans ce milieu forestier, derrière nous, on ne voit pas, mais il y a de l'agroforesterie. Là, déjà, on respire mieux, l'arbre se développe beaucoup mieux, et il y a quand même quelques incidences avec les chevreuils et les lièvres, mais bon, ça se gère très bien.
Ce sont d'autres arbres.
Ce sont les mêmes arbres qu'on a vus tout à l'heure, mais des arbres autochtones, des arbres du tiroir, des arbres champêtres. Pour en citer quelques-uns, il y a du noyer, merisier, alisier, cormier, merisier, je l'ai dit, du chêne, il y a du sicile et du pédonculé, et on a du poirier franc, du pommier franc, et voilà à peu près les essences principales qu'on peut planter en agroforesterie.
Déjà, il y en a beaucoup plus.
Déjà, il y en a beaucoup plus, et puis ce sont des essences qui sont mélangées, elles sont pas, ce ne sont pas des lignées de pures essences, elles ont on a fait comme un petit mélange.
Jacques Delozzo,
on a beaucoup parlé des arbres, mais là, devant nous, c'est de la luzerne. C'est vous qui l'avez plantée aussi?
Alors, tout à l'heure, nous parlions d'un sol qui fonctionnerait en harmonie avec l'agroforesterie. On est en présence ici d'un sol agroforestier depuis 4 ans aussi, qui a le même âge qu'en haut. On a en place une luzerne, donc on voit la hauteur, elle a une fleur, il y a pas mal de papillons qui volent à droite à gauche. L'historique, cette parcelle, depuis 2 ans, elle est la suivante. Sur une culture de chanvre qui n'a pas fonctionné, que j'ai dû détruire, c'était le 6 juin, donc c'est quand même assez tard dans la saison, j'ai donc détruit cette culture de chanvre et j'ai mis en place à la volée des légumineuses, luzerne, esparcette, trèfle. Sur ces graines, j'ai semé directement avec le semoir pneumatique le tournesol. Le tournesol s'est développé, on a moissonné ce tournesol, on a broyé les jambes, et en spontané, cette luzerne qui a été jetée avant le semi-tournesol a poussé. C'est celle qu'on a devant nous. Donc elle a 2 ans à l'heure actuelle, le sol est couvert, on voit l'agroforesterie, la terre ne voit pas le ciel, donc c'est positif. Il y a moins d'évaporation, mis à part l'évapotranspiration de la parcelle. Les racines travaillent, structurent le sol, mettent en place des nodosités. On va se servir de ce principe pour l'an prochain. Dans ce couvert vivant, il se met de la céréale, sans détruire le couvert. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bientôt, là, d'ici 15 jours, on va semer un semis direct sur cette luzerne vivante de la céréale. L'an dernier, on a essayé sur de l'orge. Ça a fonctionné. Cette année, on va essayer avec de l'avoine. Cette avoine, elle va être, si il y a un inconvénient, enrubannée pour donner à manger au bétail. Son travail aura été de structurer le sol par ses racines au premier horizon. Donc notre sol travaille. C'est jamais négatif. D'autre part, techniquement, la luzerne fabrique de l'azote. Si jamais elle a de l'azote disponible, elle travaille un peu moins. Si on lui met à disposition une graminée qui, elle, ne fabrique pas l'azote, va avoir toute cette azote disponible. Alors c'est dommage de ne pas profiter de cette plante qui fabrique de l'azote naturellement pour ne pas y implanter en associé une céréale. C'est ce qui se passe sur l'exploitation. Il n'y a plus aucune variété qui est semée toute seule. Elle est tout le temps associée à une légumineuse.
Avec celle dont elle a besoin.
Avec celle dont elle a besoin. Alors ça peut être en 2 variétés, mais ça peut être 3, 4. Notamment la parcelle à côté, plus haut, elle a été semée avec 4 variétés. À cause des aléas climatiques de cette année, je n'ai pas semé de sorgho, je l'ai laissé pousser. Ça a quand même produit en Féverolles, avoine, trèfle incarnat et vesse un rendement très correct. Quoi. Sans compter tout ce qui a été restitué au sol pour la prochaine récolte. Donc ça, c'est très positif. Donc un avantage de plus sur ce système, c'est qu'on peut changer la destinée de la parcelle, qu'elle soit pour les animaux ou qu'elle soit pour les récoltes, notamment celles que je viens de citer. Voilà, je me fais des essais tout seul, des fois je me trompe au complet, je prends de belles chutes, on va dire. Mais bon, je le fais sur des petites parcelles, c'est pas très conséquent sur le chiffre d'affaires. Mais au moins, je me rends compte de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on se rapproche de ce qu'il faut faire.
Canet, j'aimerais qu'on revienne en fait sur votre histoire, sur vous, parce que à vous écouter comme ça, je vous ai imaginé en train de parler de l'arbre et de le défendre absolument partout, devant des agriculteurs qui n'ont pas nécessairement envie d'en parler, devant des élus que ça agace, devant des associatifs qui ne comprennent pas nécessairement qu'ils ne sont pas des dieux descendus sur terre pour sauver la planète. Et finalement, j'aimerais que vous me racontiez, vous, au-delà de ce que moi j'ai imaginé, comme ça en filigrane, la façon dont l'arbre est perçu. Parce que ce que vous dites, c'est tout de même extrêmement subtil et du coup, ça renvoie à toutes sortes d'idées reçues, mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans les différents milieux. Si je vous demandais de faire un tour comme ça, les 7 familles de ceux qui ne comprennent pas les arbres.
Vous posez des questions complexes. J'ai massé l'idée de l'idée reçue, ça c'est sûr, ça c'est dramatique, ce ne sont que des idées reçues. Alors, ce sont d'autant plus des idées reçues qu'en agroforesterie, les arbres ne fonctionnent pas du tout comme dans la forêt. dans des systèmes racinaires beaucoup plus profonds, ils n'empêchent pas les cultures de pousser, etc. C'est vrai qu'on voit toujours au pied de la haie le carré de blé, le mètre carré de blé qui manque, mais on ne voit pas tous les effets, et ça on en a déjà parlé. L'arbre au milieu des champs, c'est pareil, on lui laisse un peu de place et il rend plein de services. Et malheureusement, il faut qu'on aide au décompactage intellectuel de tout ça, parce que chacun a une bonne raison de ne pas le planter l'arbre. Surtout que, par définition, un arbre ça pousse pas vite, surtout quand on ne le plante pas. Souvent, on nous dit, mais les chênes, ça pousse pas vite. Et on dit, mais attendez, regardez, là, sur ce talus, ce chêne, il a 4 ans, il est bien plus haut que vous. Sous les noyers, il pousse rien. Donc chacun peut effectivement trouver des arguments pour que ça ne se passe pas. Je dois dire que ça se passe pas si mal. On a aujourd'hui une écoute, un certain nombre d'agriculteurs qui ne sont pas juste des purs et durs, parce qu'ils existent, mais les purs et durs, il y a fort longtemps qu'ils ont planté. Moi, ma plus grande satisfaction, c'est bien évidemment de voir planter, puisque toutes ces questions-là ne reposent que sur une volonté personnelle, c'est de voir planter des gens, des élus, des techniciens, des paysagistes, encore que les paysagistes c'est un peu différent, mais des agriculteurs qui n'auraient jamais imaginé planter un arbre ou le laisser pousser. Ça c'est sûr que c'est une grande satisfaction. Moi j'ai beaucoup souffert de voir la ferme de mes parents désertique, sans arbres, avoir des animaux qui ne savaient pas où se mettre, avoir des sols partir au moindre orage, ça m'a traumatisé, il n'y a pas de doute. Et le traumatisme est grand, parce qu'on peut traverser la France, on peut traverser l'Europe, on peut aller à l'autre bout du monde, le phénomène est absolument universel et on le sait bien. Et on se refuse, hein, on se refuse. Vous parlez effectivement de ces contacts avec l'ensemble des socioprofessionnels, on peut les appeler comme ça. La participation à énormément de réunions, de colloques, où la question de l'arbre commence à être abordée, mais l'arbre, ce n'est pas juste un élément de décor, loin de là. Hein, on ne choisit pas sur catalogue une variété X ou Y parce qu'elle a la bonne couleur au bon moment. C'est un peu plus vaste que ça. Et la question du sol. Rappelons que la plupart des sols agricoles que nous avons exploités, malheureusement, le mot n'est pas faible, nous sommes comportés comme on a fait de l'extraction minière, mais quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'or, puisque le sol, c'est de l'or, c'est du patrimoine. Là, il n'y en a presque plus. Quand on est à 1% ou à 1,2%, on est limite en cause de non-retour. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Et je ne peux d'autant moins supporter ça qu'on sait que la présence de l'arbre et de ses techniques culturales sous couvert sont une forme de réponse pertinente à nos excès, à nos abus. Alors, peut-être qu'à une époque, on ne savait pas, mais aujourd'hui, on sait. La satisfaction que nous avons à l'Association française d'agroforesterie, par exemple, c'est de voir quand on peut poser clairement ces questions-là, et ça se fait au coin du champ, il faut arrêter de faire des rapports alarmistes qui nous disent que ça ne va pas, que ça on le sait, merci, on a compris, arrêter de nous faire des cartes, nous faire comprendre qu'il faut faire ci, faire ça. Non, il faut aller au coin des champs, aller montrer cette végétation spontanée, aller montrer ces parcelles agroforestières, aller montrer ceux qui ont fait ça il y a 30 ans, aller expliquer qu'il y a presque 2 millions d'hectares en Espagne qui vivent grâce et qui vivent du tourisme et du développement économique, hein, je ne pèse pas mes mots, grâce aux arbres dans la DSA, expliquer que souvent l'idée reçue, c'est nous dire oui, mes parcelles, mais bon... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on ne plante pas et si on n'amène pas ces techniques-là, qui sont on ne peut plus simples, qui sont juste de laisser pousser des plantes au bon moment et de les assister pour les semer, bien évidemment, mais ces sols sont perdus. Donc, est-ce que l'arbre est un élément gênant ou est-ce que c'est un élément majeur? Est-ce que ce n'est pas une belle opportunité? Moi, je pense que c'est une opportunité et qu'on a vraiment intérêt à regarder cette question-là de près.
Éplez-moi ce mot, Alain Canet, DSA.
Alors, DEHESAS, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on s'y rend, en Extrémadure, en Espagne, ça va jusqu'au Portugal, sur presque 2 millions d'hectares, dès qu'on rentre dans ce milieu un petit peu particulier, qui est composé de chênes verts et de chênes lièges, d'élevage et de culture, c'est un lieu magique, non, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un choc, vraiment. On en avait beaucoup parlé, on avait beaucoup lu, et puis il a fallu qu'on aille voir quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-bas. Encore une agriculture très, très performante, c'est une agriculture performante, c'est une agriculture qui est à la fois, c'est bizarre, elle est à la fois
intensive tout en étant extensive, c'est-à-dire qu'elle n'utilise que les éléments naturels et les arbres sont le moteur de cette agriculture. Donc on y voit de l'eau claire dans les rivières, on y voit des paysans qui travaillent, qui ont l'air heureux, on y voit des touristes, on y voit beaucoup de faune sauvage. On y trouve dans les petites boutiques le pata negra, un fameux jambon avec une très haute valeur ajoutée. Et c'est l'agriculture qu'on aime finalement, parce qu'elle fait plein de services sans être dans des directives, des cadres, des réglementations. Elle a été maintenue, par chance elle a été maintenue. C'est une économie incroyable, une économie de proximité où on produit tous ces services dont on a besoin, hein, même si on parle aujourd'hui de biodiversité, etc., etc., presque sans s'en rendre compte. Et c'est un peu l'effet des arbres. Ils vont produire du bois, ils vont stocker du carbone, et ils vont abriter les animaux sont heureux. Il faut savoir que les porcs ibériques, des races locales, ne mangent que de l'herbe et des glands. Et les agriculteurs s'en sortent très bien, ils mangent... Pendant 2 mois et demi des glands, le reste du temps, ils mangent de l'herbe. Et c'est une économie parfaite où les déjections des animaux font pousser les arbres. C'est du recyclage permanent et performant où on va avoir de l'herbe verte sous les arbres quand dès qu'on en sort, c'est dramatique parce que là, c'est le désert. Donc on se dit, mais ouh, l'arbre a maintenu la fertilité des sols, l'arbre a maintenu l'activité économique. On se chauffe avec les branches, on coupe quelques branches pour rééclairer les parcelles. Donc on arrive à avoir des arbres têtards, même si on ne les appelle pas tout à fait comme ça là-bas. Et on ne coupe pas l'arbre, on produit du bois. Et c'est magnifique. On a envie de s'y promener. On est dans un parc naturel sans que ce soit un parc, puisque c'est à très grande échelle. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, vers cette agriculture à très haute valeur ajoutée, avec des milieux naturels considérables qui sont très productifs.
Pour l'élevage, mais pour les cultures.
Alors la particularité de la DSA, c'est qu'on y cultive aussi des céréales. Chacun a sa méthode, chacun a son système, mais c'est assez universel. Tous les 4 ou 5 ans, on touche un peu le sol le moins possible, bien évidemment, parce qu'on a pigé ça. On a pigé qu'il ne fallait pas trop toucher les petits champignons, enfin toute cette magie invisible. Il ne fallait pas trop la toucher. On sème du blé, on sème du seigle, de l'orge, et ça marche très bien. Donc tous les 4-5 ans, on fait pendant 2 ou 3 ans des céréales, et puis après on remet de l'herbe, et on voit ces petits tracteurs se balader sous les arbres. C'est très drôle, ça marche très bien, oui.
On connaît l'histoire de la DSA ? On sait à quand ça remonte ?
Ça nous vient presque du Moyen-Âge, paraît-il. C'est très vieux et on a su le garder. Et les agriculteurs qu'on a rencontrés là-bas en sont très fiers. Ils en sont d'autant plus fiers qu'ils renouvellent en permanence. Certains nous montraient une grosse aubépine. Alors, l'aubépine, on connaît ses vertus, mais dans l'aubépine, le chêne vert, le petit gland est là et le chêne a poussé. Et le cochon ou la vache ne peuvent pas le manger. Et ce petit chêne qui pousse dans l'aubépine deviendra le chêne centenaire qui rendra tous ses services. Donc ça vient de très loin et ça peut encore aller très loin. C'est un cercle permanent, performant, qui recycle tout. Et ça, c'est intéressant.
En français, ça pourrait s'appeler agroforesterie ?
En français, aujourd'hui, ça s'appelle agroforesterie, ça s'appelle sylvopastoralisme, mais on utilise le mot agroforesterie qui correspond à peu près à tout le monde dans la définition, puisqu'il faut en passer par là, anglo-saxonne est assez bien comprise, mais le mot paraît réducteur, il ne l'est pas du tout, et bien souvent, et d'ailleurs dans notre revue, on met un S à agroforesterie parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle dominant, il n'y a pas de schéma qu'on va aller plaquer chez les uns, chez les autres, on va adapter la présence de l'arbre dans chaque région, en fonction des sols, en fonction de l'agriculture existante, en fonction des pratiques, en fonction de tous ces éléments-là pour faire des agroforesteries et retrouver des arbres dispersés dans les champs, vivants. La qualité des paysages nous intéresse tout autant que le côté productif de l'arbre et c'est ça qu'il faut bien comprendre et qu'il faut l'adapter. Donc aujourd'hui, on réfléchit ensemble, on crée cette rencontre européenne pour mieux se comprendre, mieux se parler, aller un peu plus loin et un peu plus vite et garder chacun nos spécificités.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire cette journée européenne de l'agroforesterie ou des agroforesteries, Alain Canet ?
parce que cette journée européenne permet de faire se rencontrer tous ces individus qui travaillent sur cette thématique de l'agroforesterie un petit peu partout en Europe. Et on le sait depuis fort longtemps, il y a eu un projet européen il y a 5 ou 6 ans qui avait donné de très bons résultats. Depuis, plus rien. Toutes ces initiatives nous permettront d'aller un petit peu plus loin, de les agglomérer, de mieux se comprendre. Il y a encore beaucoup à faire. Toutes ces idées reçues sur les arbres champêtres, sur les arbres agroforestiers.
Quelles initiatives aujourd'hui et où?
Alors, chacun cherche dans son coin et on peut pas, on n'a plus le temps ni les moyens de tous chercher la même chose. Il faut vraiment qu'on assemble et qu'on soit capable de répondre, parce que ces arbres champêtres étant super polyvalents, il faut qu'on leur donne vraiment du sens, puisque aujourd'hui, en pleine négociation sur la politique agricole commune, il faut qu'on soit compris et qu'on ne soit pas juste sur l'eau ou juste sur les abeilles ou juste sur une prétendue biodiversité ou juste une production de bois. Il faut qu'on soit un petit peu tout ça. Il faut qu'on le montre, qu'on le démontre, parce qu'on souhaite développer à grande échelle avec les associations de techniques culturelles. Mais pour l'instant, on est entre initiés, entre parenthèses. Et ça, ce n'est pas satisfaisant.
Néanmoins, il y a quand même un réseau qui est en train de se constituer à l'échelle européenne.
Il y a non seulement un réseau, et la rencontre européenne est l'occasion de créer l'Association européenne d'agroforesterie pour que deux ou trois fois par an, on se voit, on travaille ensemble, on aille se rencontrer, on aille sur les terrains des uns et des autres pour voir ce qui s'y passe.
Voilà, vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.fr, y retrouver notre revue de web hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Mixage, Olivier Pasquier. Réalisation, Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.